il s'avère qu'en archéologie, on utilise souvent de manière un peu indistincte remploi ou réemploi. Là, il n'y a pas forcément de grandes distinctions à faire. Ensuite, remploi lapidaire, c'est en fait la réutilisation d'éléments en pierre, généralement dans la construction. Cette pratique est vraiment très ancienne et très intéressante. Elle est multiple et protéiforme et elle pose beaucoup de questions et de problèmes à l'archéologue. Alors après, l'Ouest avec un grand O, bien, ça correspond aux différentes, à différentes régions françaises. C'est une zone un petit peu indistincte, si on peut dire, parce que suivant les définitions des géographes, elle peut changer, mais en tout cas, elle inclut toujours la Bretagne, la Normandie, une partie des Pays de Loire, et puis une partie de la Nouvelle-Aquitaine actuelle. Et alors, ce sont des régions qui parfois ont des particularités géologiques communes. Ici, dans notre cas, ce n'est pas ainsi, puisqu'il y a des grandes zones de bassins sédimentaires, et puis il y a d'autres qui sont, au contraire, des zones où dominent les roches métamorphiques et magmatiques. Je dis bien domine, ce n'est pas forcément exclusive. En revanche, dans notre cas actuel, il y a une cohérence historique parce que ce sont des régions qui ont été à un moment sous la domination des Plantagenêts, donc des Anglais. Pour le médiéviste, ça a un sens, notamment au XIIe siècle. Ce sont des régions aussi qui, par leur position, ont une grande ouverture sur la mer. Et alors ça, pour tout ce qui concerne les pierres, c'est quelque chose de très intéressant. Et qui dit ouverture sur la mer, dit aussi zone d'échange et contact privilégié. Les contacts peuvent se faire à travers le commerce et les matériaux, mais aussi à travers les hommes. Donc, c'est une zone un peu indistincte, mais qui n'est pas sans signification. Voilà.
Et les époques anciennes, ça désigne quelle période ?
Alors, dans notre cas, j'ai pris un terme volontairement vague parce que nous avons un chercheur qui va venir nous parler, Ivan Payet, qui va venir nous parler des réemplois qui se font dès l'époque préhistorique. Donc l'époque préhistorique, c'est ancien. Mais la majeure partie du séminaire est tournée quand même vers les époques antiques et médiévales. Alors d'ailleurs, quand on parle de réemploi, il y a deux dates importantes. Il y a celle à laquelle l'élément est façonné et celle à laquelle l'élément est réutilisé. Donc c'est pour ça que dans le temps époque, il peut y avoir une ambiguïté. En l'occurrence, il y a beaucoup de pierres néolithiques notamment qui ont été réutilisées soit dès l'époque néolithique, mais soit beaucoup plus tardivement. Et on a évidemment en tête en Bretagne toutes les mégalithes christianisées.
Vous disiez que c'était important que les territoires soient sur la façade maritime par rapport à ce remploi. Pourquoi ?
Parce que la façade maritime, ça permet un commerce à longue distance. Alors, le remploi, généralement, est proximal. Hein, donc, sauf cas particulier où, justement, on veut s'arroger le prestige, par exemple, d'un ancien bâtiment et auquel cas on peut le transporter sur des centaines de kilomètres. Mais c'est pas tellement ça, c'est plus pour les échanges humains. Des territoires qui vont être en contact les uns avec les autres habituellement et dans lesquels on peut avoir une main-d'œuvre qui est mobile. Et puis des territoires qui, de la pratique des réemplois, il y a aussi celle de la gestion des ressources et donc un rapport à un territoire et à son exploitation. Or, par exemple, dans les cas des réemplois assez modernes et contemporains, on pourrait dire que ce sont aussi des régions qui étaient particulièrement agricoles et rurales. Je pense par exemple au XIXe siècle où le grand mouvement d'industrialisation quand même a lieu plus à l'est du territoire français qu'à l'ouest. Donc pour le réemploi, ça par contre, ça a une signification. Parce que le réemploi renvoie évidemment généralement à des pratiques de construction artisanale, puisqu'on récupère, on réaccommode. Et donc bien éloigné des pratiques industrielles. Il s'agit de l'emploi tardif, du 19e ou 20e siècle.
Et pour l'archéologue, quel problème ça pose, ce réemploi des pierres ?
Ça pose d'un côté des problèmes, en même temps des choses hyper intéressantes, et en même temps ça pose des problèmes. Bah, vous voyez, par exemple, quand nous on essaye de caractériser les techniques, et les techniques utilisées à une époque ou à une autre. On va essayer de mettre en rapport plusieurs données. Par exemple, si j'utilise un monument, je vais m'intéresser à la forme des éléments qui le composent, les natures des matériaux, la façon dans laquelle ils ont été taillés, la façon avec laquelle ils ont été agencés. par exemple. Eh bien, si on prend l'exemple d'un pilier de cathédrale, on a pour cela des cathédrales anglaises notamment bien connues comme Winchester, bien, certains piliers parfois ont été réutilisés sans être démontés. C'est-à-dire qu'en gros, on a reconstruit une nouvelle cathédrale en reprenant les éléments de l'ancienne mais en les redécorant. Ben, pour l'archéologue, ça veut dire que d'un point de vue taille de pierre et aspect général, il aura un pilier 14e, mais par rapport au mortier utilisé, à la taille des joints, à la dimension des blocs, ben, il aura un pilier 12e. Et donc, il pourrait mettre en relation deux techniques et deux époques de construction qui ne sont pas les mêmes. Donc, ça pose un souci quand on essaie de croiser des données, par exemple. Par contre, en termes de potentialité, c'est extraordinaire, parce que il faut bien penser qu'aux époques, avant que le machinisme ne s'impose, bah, leur emploi, c'était la pratique la plus habituelle. Parce que tailler la pierre, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts, depuis l'extraction jusqu'à façonnage terminal. Donc la logique, simplement du moindre effort, si on peut dire, et du moindre coût, c'est réutiliser au maximum les pierres qui sont laissées libres par la destruction d'un bâtiment. Quand on utilise des bâtiments anciens, les réemplois sont fréquents. Et comme ils sont fréquents, eh bien, ils donnent des informations sur des bâtiments qui ont disparu. Notamment un archéologue qui s'appelle Paul François Brou qui a étudié la cathédrale Saint-Paul-de-Léon, et il a pu trouver la cathédrale gothique de Saint-Paul-de-Léon de très nombreux remplois, notamment la cathédrale romane. Grâce à ça, on peut connaître la cathédrale romane de Saint-Paul, alors que a priori celle-ci a quasiment disparu. Mais grâce aux parties chupisées dans les transepts et aux parties réemployées, on pourrait envisager un jour de faire une reconstitution 3D de la cathédrale romane de Saint-Paul. Mon collègue Milan Maligorde, qui travaille sur les éléments antiques, n'a quasiment que des blocs réutilisés, parce que des monuments antiques en Bretagne en élévation, il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus la majorité, loin de là. Et donc, toute étude qui est faite sur l'architecture antique, c'est souvent à partir de blocs qui ont été réutilisés. Donc, c'est une vraie chance que ces blocs existent.
Ah oui, on peut quand même apprendre beaucoup, même quand une pierre a été réemployée.
Oui, on peut apprendre du bâtiment dont elle provient. On peut apprendre donc de l'époque de réalisation du premier bâtiment, de son époque de destruction, parce que nécessairement, lorsque la pierre est remployée, c'est que le bâtiment dont elle provient a été détruit. Et ça, la destruction, généralement, c'est l'absence, c'est le négatif. Donc, c'est pas forcément le truc le plus facile à trouver. Et ça peut comprendre aussi la logique. Ça permet aussi de comprendre les méthodes qui ont été utilisées dans la récupération, les choix stratégiques qui ont été réalisés, et parfois les raisons du réemploi. Parce que on pense évidemment tout de suite aux raisons les plus banales qui sont de nature économique, mais dans les faits, certains réemplois relèvent purement du prestige, ou du symbole. On pensera par exemple à tous ces édifices du premier art gothique français, dans lesquels il y a systématiquement une ou deux, parfois plusieurs colonnes en marbre de l'édifice précédent, voire d'un monument antique démonté. Et systématiquement, ces éléments sont mis en valeur de telle manière à rappeler l'ancienneté de l'édifice, ou du moins les racines anciennes auxquelles se rattache l'édifice présent, ce qui crée, dans une perspective médiévale, son prestige.
Ah oui, d'accord. Donc un remploi, c'est pas toujours finalement un mépris du bâtiment précédent, au contraire.
Non, pas du tout. Ça peut être aussi une façon de s'arroger son prestige ou montrer l'ancienneté. Mais bon, parfois, moi, j'ai trouvé des pierres réemployées qui avaient été volontairement brisées pour pouvoir être mises dans les murs. Donc là, clairement, il n'y a pas de respect de l'ancien matériau. C'est purement utilitaire. En revanche, faut savoir, on a beaucoup d'exemples d'ailleurs de ça au XVIe et aussi au XVIIIe siècle. On peut en trouver aussi à l'époque antique de sculptures anciennes qui ont été mutilées ou détruites et donc qui vont être enterrées. Elles ne vont pas être jetées. On a aussi ça pour de la pierre d'appareil ou de la pierre d'éléments sculptés, donc figuratifs. Je pense par exemple au jumet de la cathédrale de Noyon, il est détruit au XVIIIe siècle, mais on ne jette pas les pierres. On les réutilise pour surhausser le chevet et créer de nouveaux cœurs. Par ailleurs, on peut prendre un autre exemple, la cathédrale de Reims. Quand dans les années 1210, on lance le nouveau chevet, alors qu'il y a une cathédrale qui a été construite au même emplacement quelques années avant. Donc on fait en gros des grands travaux de manière un petit peu somptuaire, parce qu'on détruit un édifice récent. Eh bien, on réutilise certaines pierres de manière parcimonieuse dans les fondations, comme si on venait symboliquement s'arroger le caractère sacré du premier édifice, ou du moins montrer la continuité, en réutilisant quelques éléments dans le second. Or, clairement, quand c'est 8, 10, 15 chapiteaux qui sont mis dans des fondations, ça prend des volumes tellement infimes que c'est pas, il n'y a pas une volonté économique. C'est là, on sent que clairement, ça relève du signe plus que du calcul.
Alors, votre séminaire, déjà, bon, le fait que ce soit un séminaire, c'est important. Quant au public que vous cherchez à avoir, alors expliquez-nous.
Alors, qu'est-ce qu'un séminaire de recherche comme on l'entend? Comment, en quoi se distingue-t-il des autres événements scientifiques que peuvent organiser des universitaires? Alors, généralement, les deux grands types manifestations universitaires que l'on rencontre le plus souvent, c'est la journée d'études et le colloque, où des universitaires viennent soit suivant pendant un jour, ou pendant deux ou trois jours, présenter des travaux achevés sur une thématique et puis répondre à quelques questions. Un séminaire, c'est un peu différent. C'est une séance de travail, généralement un travail collectif, où certains intervenants viennent présenter généralement un travail en cours, un cas d'étude sur lequel ils ont réfléchi ou ils sont en train de réfléchir. Et ensuite, s'ensuit une grande discussion collective dont finalement la communication ne sert que de support. Et dans un séminaire, ce qui est riche, évidemment, c'est la découverte du travail des autres, mais c'est surtout les discussions et débats. Et c'est la raison pour laquelle, nous, en organisant ces séminaires, on cherche à avancer sur nos questions de recherche personnelles, évidemment. On cherche à découvrir les dossiers de nos collègues qui ont accepté de venir présenter leur travail. Mais on cherche aussi, puisque la pierre, c'est un matériau qui est travaillé par plein de personnes, que ce soit des sculpteurs, des maçons, des tailleurs de pierre, des architectes. On cherche à avoir aussi le regard éclairé de personnes qui sont au contact du matériau, sont au contact du remploi. Ça peut être, par exemple, des gens qui restaurent une vieille ferme et qui réutilisent des pierres qu'ils ont trouvées sur place. Ça peut être des maçons qui sont habitués eux-mêmes à acheter des vieux lots de pierre, voire des acheteurs de lots de pierre qui sont habitués à les trier. Mais bref, que des gens, on va dire, qui ont un regard un peu différent du nôtre pour qu'on puisse discuter et échanger à partir des communications qui sont proposées.
Ou alors des géologues peut-être aussi
Et des géologues, bien évidemment. Mmh. Des géologues, bien évidemment, parce que le réemploi, une pierre d'abord est sélectionnée pour un usage dans un bâtiment, mais ensuite quand elle est réemployée, il y a une seconde sélection et donc une seconde appréhension de ses propriétés. Et donc oui, l'apport des géologues est hyper important c'est eux qui peuvent dire à partir de la nature de la pierre et ses propriétés. Du coup, ils sont fondamentaux, bien sûr.
Alors, dans votre séminaire, à part l'introduction et la conclusion, il y a 6 interventions. Comment est-ce que vous avez défini les thématiques?
La thématique générale, c'est toujours leur emploi. Nous avons demandé à des collègues dont on savait qu'ils avaient des dossiers particulièrement intéressants de venir nous les présenter. Par exemple, Jacques Roger, qui est archéologue au service régional de Nouvelle-Aquitaine, travaille depuis quelques années sur un site qui est situé à Moutière-Roseille et il a un cas tout à fait extraordinaire d'un bâtiment antique, un mausolée qui a été transformé en église. C'est un cas remarquable qui demande qui peut servir de support à réflexion. Éric Sparhubert, par exemple, qui travaille dans la même région, lui, est confronté à beaucoup d'emplois de stèles antiques dans les églises romanes. Alors pourquoi est-ce que dans ces églises romanes c'est leur premier réemploi? Est-ce que ces stèles sont sélectionnées? Est-ce que ça signifie qu'il y a un démantèlement de nécropole? Est-ce que ça correspond, on va dire, à une réutilisation d'un territoire qui avait été, par exemple, laissé en friche ou qui était tombé en friche? Que c'est autant de questions qu'il va pouvoir nous présenter. D'autant plus qu'on sait qu'à l'époque romane, par exemple, il y a un intérêt tout à fait particulier et qui est indiqué dans les textes, qui est porté aux pierres utilisées, à leur nature, à leur forme. Il y a Yvan Maligorne, qui est un grand spécialiste d'architecture romaine, qui va nous présenter un peu tous les cas qu'il a pu rencontrer en Bretagne, maintenant, à peu près 25 ans de recherche. Il y a Yvette Baillet, donc, qui nous parle des remplois néolithiques qui sont extrêmement intéressants et qui posent plein de questions parce que, vous voyez, quand on travaille sur un territoire au sens large comme la Bretagne ou des zones plus restreintes, on cherche à cartographier, on cherche à comprendre où se situent les éléments, où étaient peut-être les agglomérations, mais au moins les foyers de peuplement, à essayer de comprendre en fait comment l'homme s'est approprié son milieu. Or, la question des réemplois pose aussi celle de la question des déplacements des pierres et des déplacements des éléments. Est-ce que les cartes qu'on établit à partir des localisations actuelles correspondent à une réalité d'un premier emploi ou à une réalité qui est liée au réemploi? Donc, ce sont des questions qui sont particulièrement ardues. Daniel Prigent, qui est un très grand spécialiste d'archéologie du bâti, et notamment à l'époque altomédiévale et l'époque romane, lui, eh bien, dans sa carrière d'archéologue, a été confronté à plein de problèmes qui sont liés à ses emplois. Notamment, lui, il travaille sur ce qu'on appelle le petit appareil, c'est-à-dire des appareils genre des petites pierres carrées, qui sont difficiles à caractériser et dont on sait rarement, en fait, s'il s'agit de pierres taillées dans l'Antiquité tardive et réutilisées à l'époque romane ou si c'est directement de la taille romane. Or ça, c'est une question essentielle. Vous voyez, par exemple, pour l'église de Locmaria à Quimper, savoir si la pierre qui est utilisée, c'est du réemploi ou si c'est d'origine ou si c'est bien roman, eh bien, ça change complètement l'histoire de cet édifice, de la communauté qu'il a habité, et plus généralement, en fait, même de l'histoire de la Bretagne. Donc, ce sont Daniel Prigent va nous offrir un regard très, très précis sur des méthodes de distinction, en fait, des techniques et de discrimination des époques. Donc, c'est des interventions qu'on attend, évidemment, avec beaucoup d'impatience. Après, on a un seul exemple qui quitte l'Ouest au sens propre du terme, parce que c'est la grande basilique Saint-Denis. C'est un petit peu... Cette basilique, en fait, va nous être présentée par deux personnes dont on a une vraie chance qu'ils acceptent de venir. Michael Lewis, qui est l'archéologue municipal qui, depuis maintenant 30 ans, à peu près, étudie la basilique Saint-Denis d'un point de vue archéologique. La basilique Saint-Denis, pour un archéologue, si vous voulez, c'est un peu la Mecque, quoi, parce que c'est une abbatiale, une abbaye royale, c'est là que les rois de France étaient enterrés, c'est la plus vieille église. Enfin, c'est considéré comme le premier vrai chantier gothique, le premier vrai chantier gothique rayonnant un siècle plus tard. Et avant, c'était une abbaye déjà carolingienne de très grande importance, fondée au-dessus de la tombe de l'apôtre de Paris. Donc autant dire que c'est un monument totalement emblématique, dans lequel les réemplois sont nombreux. Et parfois, ce sont des réemplois utilitaires, parfois, ce sont des réemplois qui sont juste du prestige. C'est un exemple en regard de tous ceux qu'on va présenter autrement, parce que, certes, il n'est pas dans la région, mais il sert un peu, si vous voulez, de témoin, de marqueur des différents usages de ce emploi. 5 seront présentés en fonction des époques, en fonction des commanditaires, en fonction de la nature des matériaux et des contextes. Donc c'est un peu, si vous voulez, le parallèle. Saint-Denis sera mis en parallèle avec nos exemples à nous, quoi. Dans cette intervention, il y aura Jean-Pierre Gély qui viendra avec Michael Lewis. Et Jean-Pierre Gély, justement, c'est un géologue. C'est un géologue qui vraiment se met à disposition généralement des archéologues. Il a une science de la pétrographie. Il a bien d'autres talents, Jean-Pierre Gély, parce qu'il est chercheur, par ailleurs, à Gaz de France, et il sait faire plein de choses. Mais par passion et par gentillesse, généralement, il met ses compétences à disposition des archéologues pour aussi alors faire des identifications de pierres. Il a tout un travail scientifique là-dessus. Et grâce à ça, il arrive, si vous voulez, à faire des cartographies complètes des zones d'extraction des pierres, de leurs zones d'utilisation et donc du commerce de ces éléments aux époques anciennes, là où parfois les textes sont silencieux ou inexistants. Donc, et ça, c'est une compétence extraordinaire et il sera là aussi, donc j'en suis ravi.